Les rencontres d'Edmond Morel.
Les lettres européennes sont en deuil, en fait, parce que en deuil de quelqu'un qui serait presque comparable à Saramago comme figure de proue de la littérature portugaise, vient de mourir. Alors, la figure de proue de la littérature néerlandaise, parce que dans la littérature des Pays-Bas de la deuxième moitié du XXe siècle, il y a, disons, quatre figures dominantes qui sont Frédéric Hermans, Gérard Reve, Cees Notenboom et Harry Mulisch. Hermans et Reve sont morts, reste Cees Notenboom qui est toujours vivant et Harry Mulisch qui vient de s'éteindre samedi dernier, à 83 ans, je pense. C'est vraiment une figure très intéressante. C'est quelqu'un qui a, depuis le début, été complètement marqué par son temps, par son époque, dans son cas, de manière immédiate, charnelle, puisqu'il était né d'un père austro-hongrois qui, à un moment donné, a collaboré avec l'occupant allemand aux Pays-Bas, et d'une mère née à Anvers, dans un milieu juif, donc une mère juive. La seule chose positive qui est résultée de ce couple qui s'est séparé très tôt, c'est que le père a protégé la mère de la déportation. Et la mère est partie en exil en Amérique, tandis que Harry Mulisch était élevé par son père. Mais des rapports difficiles entre le père et le fils ont fait que, vers l'âge de 16-17 ans, il a pris son autonomie, il est devenu autodidacte, il s'est voué à la littérature avec énormément de dispositions, puisque son premier roman paraît quand il a 25 ans, il est tout de suite salué comme une œuvre majeure. Et Mulisch a été considéré tout au long de sa vie comme un écrivain au fronton des lettres néerlandaises, comparé à des ancêtres comme Simon Westeck, Multatuli, voire Van de lui-même. D'ailleurs, dans son comportement, parce que je l'ai rencontré à diverses reprises, il rayonnait de cette espèce de certitude d'être ce qu'on appelle au Japon un trésor vivant, donc une espèce de monument national. Alors, c'est très intéressant de suivre le parcours de Mulisch. D'abord, parce que c'est un témoin de son temps. Ça, c'est sûr. Il a écrit une série de livres dont, malheureusement, la plupart n'ont pas paru en français, qui n'étaient pas des romans, qui étaient des reportages. Un reportage, par exemple, sur le Cuba de Castro, du début, qui s'appelle le geste à la parole, qui est un beau titre quand même pour définir un programme politique. Il a fait un reportage remarquable sur le procès Eichmann à Jérusalem. Il a écrit sur les mouvements contestataires hollandais d'avant 68, qui ont été parmi les signes avant-coureurs de la révolution de 68, qui s'appelle les provocateurs. Et ces livres restent intéressants à lire par des témoignages et aussi par sa capacité toujours d'élever le débat, enfin de voir les choses en surplomb comme ça. Capacité qu'il avait très classique, d'avoir, disons, une capacité une possibilité de synthétiser un problème assez facilement, en apparence du moins. Mais alors il y a son travail de romancier. Il a publié une dizaine de romans, à peu près autant de recueils de nouvelles, de très très belle qualité. Et dans ces romans, alors, il y en a surtout deux qui ont été d'une importance déterminante. D'abord, un roman paru dans les années 50 qui s'appelle L'Attentat, et qui a été le plus gros tirage qui soit jamais survenu à un livre hollandais. Rien qu'en Hollande, au fil des années, et depuis le moment où il est devenu évidemment un livre de programme des écoles, etc., il s'en est vendu, rien que dans son pays, 1 million d'exemplaires, ce qui pour un pays de 16 millions de gens est quand même assez impressionnant. Et c'est une histoire de guerre, ça se passe à Harlem, qui est sa ville natale, et devant la maison d'une petite famille, père, mère, fils, est trouvé assassiné par la résistance, un collaborateur. Mais on est en pleine occupation. Donc les premiers suspects sont les membres de cette famille. On n'a pas trouvé de traces des véritables coupables. Et leur proximité avec ce qui s'est passé les désigne tout de suite aux yeux des enquêteurs politiques comme les fauteurs. C'est un roman qui montre comment, dans une population pacifique, dans la population générale, enfin, qui subit la guerre plutôt qu'elle ne la fait, la guerre peut frapper comme une espèce de hache aveugle et faire exploser la cellule familiale. C'est un livre qui a été énormément commenté, traduit dans beaucoup de langues et même porté à l'écran par Franz Rademachers et qui a obtenu l'Oscar du meilleur film étranger à l'époque. Alors il y a d'autres romans, on ne va pas tous les énumérer, mais il y en a enfin un qui justifie que l'on dise que Mulisch est vraiment un des grands écrivains européens. Personne ne mettait en doute qu'il était un des grands écrivains des Pays-Bas. Pour ma part, je n'ai jamais changé d'opinion là-dessus, parce que année après année, paraissaient de nouveaux ouvrages, essais, reportages, romans, parfois la poésie, qui étaient chaque fois d'un niveau très, très, très supérieur. Mais je pense qu'il a lui-même pris conscience que tant qu'il n'aurait pas fait son opus principal, il n'aurait pas, disons, réalisé une œuvre à la hauteur de ses ambitions. Alors, c'était quelqu'un de très ambitieux, de très orgueilleux, pas tellement sympathique d'ailleurs, à force de satisfaction de soi, mais cette satisfaction était assez trompeuse. Sans cela, il n'aurait pas écrit La découverte du ciel. La découverte du ciel, qui est un roman de 900 pages en édition originale, divisé en 65 chapitres, et là on voit déjà le narcissisme du personnage, parce qu'il a terminé l'année de ses 65 ans, auquel il a travaillé pendant, disait-il, 3 ans, mais qu'il a préparé pendant 15 ans, et dont le grand sujet est un sujet éminemment métaphysique. D'ailleurs, le roman commence au paradis, et c'est la colère de Dieu contre les hommes, parce qu'il estime que les tables de la loi, qu'il leur a cependant communiquées au mont Sinaï, n'ont pas été suivies des faits, et qu'au contraire, les hommes n'ont pas cessé de les négliger, de ne pas les suivre, et finalement, à travers ce comportement, de défier Dieu lui-même. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a ce cadre métaphysique, et puis il y a l'action, et c'est une vraie action, c'est-à-dire, pour restituer les tables de la loi à la divinité, il faut encore les retrouver. Et là, la manière dont il décrit et raconte cette quête, cette vraie quête des tables de la loi, est inspirée des aventuriers de l'Arche perdue, qui d'ailleurs est un film dont le titre est déjà en soi une allusion à une recherche comparable. Et puis il y a injecté aussi la relation d'amitié entre deux hommes, dont l'un est un ingénieur, mais plutôt attiré par la littérature, et l'autre est un homme de science passionné par les échecs. Or, il est une autorité publique que le meilleur ami de Mulisch était un grand champion d'échecs hollandais. Évidemment, l'introduction des échecs permet aussi de développer toute une série d'analogies qui viennent à point nommé dans le roman. C'est un livre fascinant parce que c'est à la fois un livre qui peut-être pousse un peu trop loin la sophistication, voire la coquetterie intellectuelle, et en même temps est captivant comme un roman d'action et contient, disons, autour de tout ça, une interrogation métaphysique. Alors, ce livre a été élu depuis meilleur roman jamais écrit aux Pays-Bas. Il a été traduit en une dizaine de langues. Il aurait justifié que Harry Mulisch ait le Nobel. D'ailleurs, c'est un témoignage personnel. J'ai été membre du jury du prix Aristeion de littérature du temps où ce prix existait encore. Et j'ai moi-même défendu ce livre bec et ongles pour me faire battre, en fin de compte, par ceux qui soutenaient davantage un autre auteur hollandais qui était C.S. Notenboom. Et là, ce qui était intéressant, c'est que le livre de Notenboom était un beau roman, mais un petit livre de 150 pages face à la saga de Mulisch. Et je me souviens que dans la délibération, j'avais demandé aux autres membres du jury, mais avez-vous lu le livre de l'un et de l'autre? Et ils avaient tous lu le livre de Notenboom parce qu'il avait été déjà traduit dans toutes les langues. C'est facile de traduire un livre aussi mince dans toutes les langues, et que l'autre, il ne connaissait que par ouï-dire, parce que les traductions de La Découverte du Ciel ont mis du temps. La très belle traduction française qui est parue chez Gallimard a mis 6 ans à paraître. Donc c'était un peu le handicap de l'œuvre d'être trop difficile à traduire et trop longue à traduire. Et c'est peut-être pour ça aussi que Mulisch n'aura pas été cet auteur néerlandophone à décrocher le Nobel, parce que vous savez que le Nobel n'a jamais été décerné à un auteur de la langue néerlandaise, que Mulisch était d'ailleurs en rivalité avec Hugo Claus, notamment à ce sujet, mais qu'ils étaient très liés l'un à l'autre, qu'ils étaient très amis, et Mulisch d'ailleurs ne considérait que Claus comme un écrivain de son pédigré, de sa valeur. En Flandre et en Belgique. C'est un homme étonnant. Je l'ai rencontré à diverses reprises. J'ai eu beaucoup de mal à l'interviewer pour la sortie française de La Découverte du Ciel parce qu'il était sourd, mais il affectait de ne pas l'être. Donc il faisait de la lecture labiale. Les réponses étaient souvent à côté de la question. Il était très coquet. Très dandy, ne voulant pas trahir son âge. Il avait un passé de grand séducteur. Il avait un jour réuni dans un grand hôtel à Amsterdam, le Krasnapolski, tous ses amis pour fêter sa 1000e conquête. Et puis, après cette vie de Casanova, il s'est rangé et il s'est marié 2 fois. Il a 3 enfants. Il était désarmant, presque d'afféterie, c'est-à-dire pousser les choses jusque-là, friser le ridicule pour ne pas lui faire une permanente, comme aurait dit Jacques Sternberg. Mais c'était un tout grand monsieur et une grande conscience européenne, peut-être un peu solitaire dans son pays, solitaire par sa langue. Il connaissait l'allemand, c'était tout. Mais qui est arrivé quand même à construire une œuvre magnifique, extrêmement bien architecturée, et qui témoignera très longtemps pour lui.
Les rencontres d'Edmond Morel.